Euradio présente Les Voix de l'Histoire. Chaque mois, un invité décrypte un sujet d'histoire. Les Voix de l'Histoire, une émission animée par Bernard Michon.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Voix de l'Histoire, un rendez-vous mensuel qui vous est proposé sur Euradio par le Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique de l'Université de Nantes. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à l'histoire de l'ordre teutonique. Pour ce numéro, je suis en compagnie de Philippe Josserand qui va animer l'émission avec moi. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Josserand, vous êtes maître de conférences habilité à diriger les recherches en histoire médiévale à l'Université de Nantes et vous êtes membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Vous êtes un spécialiste reconnu de la croisade et des ordres religieux militaires. Je précise que nos auditeurs vous connaissent, hein, puisque nous avions consacré une émission des Voix de l'Histoire à Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, au moment de la sortie de votre ouvrage, publié, je le rappelle, aux éditions Les Belles Lettres. J'ajoute que vient de paraître un livre sur votre parcours historien que vous avez intitulé « L'histoire, l'ordre et le chaos, une anthropologie de soi » aux éditions des paysages. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Christiane Thomas-Poëgue. Bonjour.
Bonjour.
Christiane Thomas-Poëgue, nous sommes sur Euradio et on peut dire que vous êtes un Européen par votre parcours personnel puisque vous êtes estonien d'origine et que vous êtes actuellement professeur associé au département d'histoire de l'université du Salento à Lecce en Italie. Après avoir soutenu une thèse d'histoire à l'université Paris-10-Nanterre en 1999. Christiane Thomas-Poëgue, vous êtes un spécialiste de l'ordre teutonique en Sicile et en Italie méridionale. Je signale d'ailleurs à nos auditeurs que vous avez publié une histoire des chevaliers teutoniques chez Flammarion. Votre présence à Nantes s'explique par la soutenance de votre habilitation à diriger des recherches que vous avez préparées en lien avec votre garante, Annick Peters-Custeau, professeure d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Nantes. Nous reviendrons d'ailleurs en fin d'émission sur le sujet de ce travail. Pour le moment, je cède la parole à Philippe Josserand.
Merci Bernard. Si les Templiers aujourd'hui fascinent, car chacun les auréole volontiers de mystère, les teutoniques, eux, ont nourri une véritable légende noire. Alors, tu la connais bien, chère Christiane, tu l'as étudiée parce que pour saisir le Moyen-Âge, il est toujours utile de partir des représentations construites notamment à partir du XIXe siècle. J'aimerais, pour commencer, que tu nous en dises un mot.
La légende noire des chevaliers teutoniques est en réalité une invention plutôt récente. Elle a été inventée par un écrivain polonais du XIXe siècle, Henryk Sienkiewicz, qui a écrit un livre sur les chevaliers teutoniques qui focalisait sur la bataille de Tannenberg, donc la grande bataille de 1410, où les chevaliers teutoniques ont été combattus par les Polonais et les Lituaniens. Donc Sienkiewicz, il crée une légende qui est une espèce de légende fondatrice aussi de l'identité polonaise, en représentant cette bataille comme l'affirmation de l'identité polonaise. Et d'ici en avant, pour les Polonais, les chevaliers teutoniques sont des antagonistes de la formation de leur identité depuis le Moyen-Âge, non ? Et puis, un peu plus tard, dans les années 20 et 30, dans l'Union soviétique, on a repris la vieille légende d'Alexandre Nevsky qui a combattu contre les chevaliers teutoniques. Et on a représenté les chevaliers teutoniques non comme le symbole de l'expansionnisme allemand, mais comme une espèce de menace occidentale en général, ce qui est un peu différent. Puis, les choses ont changé durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a commencé à considérer, dans l'Union soviétique, la Prusse qui était la terre des chevaliers teutoniques, comme une espèce d'origine du mal. Donc le territoire qui a donné la naissance, en quelque forme, à une espèce de première forme de nazisme, non, si nous voulons. Ce qui fait que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le bloc oriental, les chevaliers teutoniques étaient représentés comme une espèce de force anachronistes, fascistes, comme des espèces de prédécesseurs des SS, si nous voulons, quelque chose de genre. Pendant qu'en Allemagne, la situation est complètement différente, parce qu'en Allemagne, les chevaliers teutoniques n'ont eu aucun rôle dans la formation de l'identité allemande, et leur représentation commence avec la Première Guerre mondiale, lorsque l'état-major allemand commence à utiliser l'image des chevaliers teutoniques durant la guerre en Prusse. Et puis, dans les années 20, l'extrême droite allemand, surtout en Prusse, commence à utiliser les chevaliers teutoniques dans leur propagande électorale. Et dans les années 30, les nazis ont un certain intérêt pour les chevaliers teutoniques qui n'est toutefois pas comparable à l'intérêt qu'ils ont, par exemple, sur la mythologie germanique, sur toute une série d'éléments de représentation du passé. Les teutoniques ont un rôle dans l'idéologie nazie, mais c'est un rôle décidément mineur.
Loin de l'Allemagne, loin de l'Europe orientale, l'ordre teutonique, pourtant, est né en Terre Sainte, à la fin du XIIe siècle. Peux-tu, s'il te plaît, Christiane, éclairer cette fondation et présenter les combats qui ont été ceux des frères de l'institution dans l'Orient des Croisades jusqu'en 1291 ?
Les chevaliers teutoniques sont nés à la fin du XIIe siècle, dans le contexte de la Troisième Croisade, mais comme frères mineurs des Templiers, des Hospitaliers. Donc, les chevaliers teutoniques n'ont jamais eu le même succès en Terre Sainte des Templiers ou des Hospitaliers. Et même durant les combats dans la Terre Sainte, on les voit beaucoup moins. Disons qu'ils ont acquis un rôle durant la Cinquième Croisade, combattue en Égypte. Et puis, en 1240, les Teutoniques ont construit un château très important, le château de Montfort, en Terre Sainte, dont les ruines sont toujours conservées en Israël d'aujourd'hui. Et là, depuis ce moment, ils ont eu un certain rôle dans la défense de la Terre Sainte. Et surtout, ils ont eu un rôle très important durant la dernière défense de la ville de Saint-Jean-d'Acre. Au printemps 1291, lorsque les Teutoniques ont combattu pour défendre la ville, beaucoup d'eux ont laissé leur vie dans la bataille.
Et pour soutenir cet engagement en Terre Sainte, l'ordre teutonique s'est étendu dans toute la Méditerranée. Et bien sûr, on y viendra après la pause musicale, en Baltique. Alors aujourd'hui, tu l'as rappelé, la Prusse, dans l'imaginaire, l'a emporté. Mais j'aimerais, Christiane, que tu évoques brièvement cette présence méridionale des frères d'Arménie jusqu'en péninsule ibérique à laquelle tu t'es tant consacré, notamment pour la Sicile et pour l'Italie, où elle a été tout spécialement importante.
Ben comme j'ai dit, les Teutoniques n'avaient pas un grand succès en Terre Sainte parce qu'il y avait le problème de rivalité avec les Templiers et les Hospitaliers. Donc, depuis les débuts de leur ordre, ils ont essayé de s'expandre vers l'Occident et partout où c'était possible. Et ils ont bénéficié aussi du soutien des autorités impériales germaniques. Et rappelons-nous, au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, le royaume de Sicile faisait partie de l'Empire allemand. Et donc, dans ce contexte, surtout sous le gouvernement de Frédéric II, de l'empereur Frédéric II, ils se sont installés en Sicile, dans les Pouilles et dans d'autres régions de l'Italie du Sud, en tentant aussi une expansion vers le nord de l'Italie. Et ils ont reçu des donations très importantes de la part des autorités publiques. Et ils ont construit des provinces, en particulier dans les Pouilles et en Sicile, qui servaient aussi comme une espèce d'arrière-base de ravitaillement de la Terre Sainte, d'où on envoyait les vivres et l'argent comptant et les chevaux vers la Terre Sainte. Et dans la même période, les Teutoniques font aussi d'autres tentatives. Ils essayent de s'installer, par exemple, en Castille, en Espagne. Ils ont une présence dans le royaume d'Arménie, Arménie cilicienne. Ils sont présents en Grèce. Mais tout compte fait, ce reste quand même des présences épisodiques. Et puis, les chevaliers teutoniques, ils sont à la recherche de se créer un domaine politique et économique. Il est en première tentative dans le royaume de Hongrie au début du XIIIe siècle, qui ne fonctionne pas parce qu'il y a un conflit avec le roi de la Hongrie. Et la seconde tentative sera réalisée en Prusse depuis 1230.
Euradio, les voix de l'histoire.
Toujours en compagnie de Philippe Josserand, nous recevons aujourd'hui l'historien Christiane Thomas Poeg pour une émission consacrée à l'histoire de l'ordre teutonique. Nous venons d'entendre un extrait de la bande-son du film soviétique Alexandre Nevsky, sorti en 1938, réalisé par Sergei Eisenstein et Dimitri Vassiliev. La musique originale a été composée par Sergei Prokofiev. Le passage que nous avons écouté correspond à la bataille livrée sur le lac Pépous. Alors Christiane Thomas Poeg, pouvez-vous nous rappeler cet épisode historique et peut-être également la manière dont il est convoqué par Sergei Eisenstein et Dimitri Vassiliev?
Alors le problème, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que cette bataille ait jamais eu lieu. Et nous connaissons surtout une description d'une espèce de conflit armé au bord du lac Peipus ce temps-là, donc 1242, mais... On a très très peu d'informations sur cette bataille et il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que les chevaliers teutoniques qui auraient dû combattre dans la bataille, dans ce moment, ils se trouvaient en réalité à lutter contre les Lituaniens, qui étaient les vrais ennemis des chevaliers teutoniques à ce moment-là. Et on ne sait pas qui aurait pu tomber dans cette bataille. Et puis l'autre chose, c'est qu'on le représente dans le film, justement, le chevalier teutonique comme une force de conquête, qui veut conquérir la Russie, la Sainte-Russie, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout vrai, parce qu'en réalité, il s'agit à l'origine d'une petite exposition de pillage d'Alexandre Nevski, qui est entré dans la Livonie médiévale, qui a pillé des villages, et puis, une fois qu'il a pris la fuite, il a été suivi par la Teutonie, il paraît, et donc là, il y aura eu un conflit au bord du lac Peipus. Récemment, les archéologues russes ont fait des recherches, ils n'ont rien trouvé dans le lac, et ils ont trouvé quelque chose au bord du lac Peipus. Donc, il semble extrêmement difficile que cette bataille suggestive sur la glace du lac aurait pu avoir lieu. Mais là, nous avons affaire avec la légende d'Alexandre Nevski, qui est liée à sa canonisation par la volonté de l'Église orthodoxe. Et Alexandre Nevski, il plaisait à l'Église orthodoxe parce que c'était l'homme des Mongols. Et les Mongols avaient unifié la Russie, qui avait été divisée entre une grande quantité de petites principautés. Avec les Mongols, la Russie était en quelque forme unifiée. Et l'Église russe ne pouvait pas canoniser Alexandre Nevski comme l'homme des Mongols. Il fallait quelque chose de son passé. Donc là, on a trouvé l'épisode de la lutte contre les Suédois sur le Neva. Et puis, on a pris cette vieille histoire, la bataille sur le lac Peipus, dont on n'a pas vraiment beaucoup de certitudes. Donc ici, on a affaire plutôt avec une légende qu'avec une réalité, mais une belle légende et surtout un beau film.
Et cette légende, comment est-elle, je dirais, en 1938, ressortie au moment de Staline au pouvoir?
Alors, la question était la Russie. L'histoire de la Russie a toujours eu des périodes où lorsque la Russie se ferme, s'isole de l'Occident. C'était comme ça sous Ivan le Terrible, c'était comme ça sous Staline. Et donc, ici, les chevaliers teutoniques, il ne faut pas les prendre comme une représentation des Allemands par force, parce que le rapport avec les Allemands, quelquefois, était aussi bon, même excellent, des fois. Hein. Un an après, les Soviétiques et les Allemands font le pacte Molotov-Ribbentrop. Donc, et c'est plutôt l'Occident en soi qui est vu comme une menace. Et il faudrait le prendre comme ça. Non, par hasard, l'autre film fameux, non, d'Eisenstein, c'est un film sur Ivan IV, Ivan, terrible. Non. Et c'est assez indicatif.
Avec cette bataille des glaces mythifiée, hein, on vient de le rappeler, nous sommes au cœur des combats difficiles livrés par l'ordre teutonique, non tant contre les Russes que contre les Lituaniens et les Prusses, dans le but d'imposer un contrôle et même une souveraineté aux frontières nord-orientales de l'Occident. Alors peux-tu, s'il te plaît, Christian, nous présenter rapidement cette conquête?
La conquête de la Prusse dérive de la volonté des teutoniques de se créer un domaine dans l'Occident, ce qui n'était pas possible dans l'Orient. Ils ont essayé de le faire en Occident. Et donc, appelés par le prince de Mazovie, ils arrivent en Prusse en 1230 et suivent une longue période de conquête qui dure jusqu'à la fin du XIIIe siècle, en réalité. Lorsqu'ils se soumettent le pays, les Prusses ou les Prussiens, si nous voulons, qui est un peuple payan de langue balte, et qui lutte pour, pendant beaucoup de temps contre les teutoniques. Puis, en Livonie, ce qui est l'Estonie et la Lettonie actuelles, les teutoniques se substituent en 1237 à un petit ordre religieux militaire qui est l'ordre des porte-glaives de la Livonie. Et une fois, la Livonie, en réalité, a déjà été évangélisée. Il y avait déjà eu la conquête, la croisade. Donc, les teutoniques y arrivent après. Et à la différence de la Prusse, où les teutoniques sont des seigneurs territoriaux et ecclésiastiques, en Livonie, ils doivent partager leur pouvoir avec des princes-évêques très forts, comme l'archevêque de Riga, l'évêque de Tartu, etc., etc. Et puis, la dernière phase, 14e siècle, lorsque, après une révolte des paysans estoniens, Le roi de Danemark est contraint de vendre aux Teutoniques le duché d'Estonie, qui serait la partie septentrionale de l'actuelle Estonie. Donc, et là, les Teutoniques, ils ont le pouvoir complet. On ne peut vraiment parler de la défense des frontières de la chrétienté dans le cas des Teutoniques contre les Russes, contre les schismatiques, comme on disait à l'époque, contre les orthodoxes. Et parce que leur ennemi principal, ça a toujours été le grand-duché de la Lituanie, qui était un grand pays qui allait de la Baltique jusqu'à mer Noire, et un pays sans religion officielle. Et les Teutoniques combattaient pendant des décennies, pendant des siècles contre les Lituaniens, jusqu'au moment lorsque les Lituaniens acceptent la religion chrétienne et leur prince se convertit.
Alors avant d'en venir à Tannenberg, bien sûr, et à 1410, il nous faut revenir sur les conséquences de cette conquête teutonique, car, tu le disais, un État est né, notamment en Prusse. Les historiens, reprenant le mot allemand, l'appellent l'Ordenstaat, c'est-à-dire l'État de l'ordre. Ce fut une puissance considérable à la fin du Moyen-Âge, y compris en termes économiques et culturels. Et j'aimerais pour nos auditeurs que tu évoques certains aspects souvent méconnus de cette domination teutonique qui a pris un caractère étatique.
Oui, on parle d'un état des chevaliers teutoniques depuis les travaux de l'historien polonais Karol Gorski, après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un état très particulier. C'est un état où les teutoniques ont le pouvoir ecclésiastique, c'est-à-dire les évêques sont membres de l'ordre teutonique. Ils ont le pouvoir politique, mais la force économique principale sont les villes de la Prusse. Et les villes, dont plusieurs sont membres de la Ligue hanséatique, et qui sont des vraies propres puissances économiques. Pour vous donner un exemple, non, Königsberg, actuel Kaliningrad, était une ville très importante et qui n'était même pas une ville, mais il y avait trois villes. Trois villes qui se sont formées l'une après l'autre dans son site. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'un réseau commercial très important. La Prusse contrôle l'embouchure de la Vistule. Et c'est une région de contact entre l'Europe de l'Est, du Nord-Est, l'Europe du Centre, l'Europe du Nord. Et en plus, ce sont des terres plutôt fertiles, donc nous avons affaire avec une réalité économique très importante. Et l'importance de la Prusse s'explique exactement avec son rôle dans ce espèce de réseau commercial qui s'est formé autour de la Baltique à la fin du Moyen-Âge. Vous vous rappelez, non? La Méditerranée commence à être toujours plus contrôlée par les musulmans, par les turcs à la fin. Et les routes commerciales se déplacent au début vers le nord, donc vers le Baltique. Et depuis la Baltique, on peut arriver jusqu'à mer Noire, jusqu'à voie de la soie. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et il y a une contradiction entre le pouvoir économique très fort des villes de la Prusse et le pouvoir politique militaire, ecclésiastique, teutonique, et tout cela finira avec une espèce de guerre civile au XVe siècle.
Bien sûr, et il faut venir à cette guerre civile du XVe siècle et venir finalement à la chute de la Prusse teutonique devant l'union polono-lituanienne opérée au début du XVe siècle et renforcée finalement pendant le siècle qui a suivi.
Ici, il s'agit, oui, de quelque chose qui est très logique. Une fois que les Lituaniens se sont convertis en religion chrétienne, dans sa forme catholique romaine, et les Teutoniques ont perdu la justification pour leur existence. L'ordre était censé de combattre les païens. Les païens, il n'y avait plus. Et donc, et puis la puissance militaire des Lituaniens, unie avec celle des Polonais, a fait le reste. Donc en 1410, les troupes lituaniennes et polonaises ont écrasé les troupes de l'ordre teutonique. Et par ailleurs, dans son livre, Henryk Sienkiewicz exagère un peu le rôle des Polonais, diminue le rôle des Lituaniens, qui en réalité ont eu une importance décisive dans la bataille. Et puis, par la suite, les Teutoniques sont devenus des vassaux du roi de Pologne. Et, dans la phase successive, le conflit entre les villes de la Prusse Et les chevaliers teutoniques fait leur reste et la Prusse s'est affaiblie considérablement. Et puis, la dernière phase, c'est la réforme protestante. Le grand maître, Albrecht de Brandenburg, décide de transformer Prusse en un territoire protestant. Et donc, l'ordre teutonique en Prusse est aboli. Et la Prusse devient un duché laïque. Et puis, sur la base de ce duché laïque, puis nous aurons le royaume de Prusse et puis l'empire de l'Allemagne.
Dans l'Europe nord-orientale, l'Ordensstaat au XVIe siècle a fini par céder. C'est donc en Occident que l'histoire de l'ordre teutonique s'est poursuivie, ramenée, je dirais, à la normale. Mais à l'Est, ces trois siècles de présence des frères ont laissé une empreinte profonde. De là sont nés, tu le disais, la Prusse et la Livonie moderne. Peux-tu pour finir nous en dire un mot, toi dont l'histoire personnelle rencontre finalement si intimement celle de ces espaces ?
L'ordre teutonique à Livonie a été transformé en un duché, très intéressant, un duché de Courland, qui est un des rares pays de l'Europe de l'Est qui a eu des colonies en Afrique, pour dire. On parle beaucoup de ces choses actuellement, non ? Ils ont eu des colonies, ce petit duché, et ils ont eu une importance décisive aussi pour l'histoire de la Russie, parce que la duchesse de Courland est devenue impératrice de la Russie, et puis il y a eu des liens réciproques pour beaucoup de temps. L'ordre teutonique lui-même, oui, a existé, a continué à exister pour plusieurs siècles comme un ordre au service de la dynastie des Habsbourg en Autriche. Et donc, le grand maître de l'ordre teutonique, très souvent, est un prince de la famille impériale. Il avait un lien très fort dans la Première Guerre mondiale. Il avait même une division autrichienne qui portait le nom de l'ordre teutonique. Et pour cela, après la fin de la Première Guerre mondiale, les teutoniques ont eu de grandes difficultés et ils ont dû abolir l'institution de chevaliers dans leur ordre. Donc c'est devenu un ordre de prêtres et des sœurs et qui a été interdit par les nazis durant l'occupation allemande de l'Autriche après l'Anschluss. Et parce que plus que l'occupation, c'est aussi une espèce d'adhésion volontaire. Et maintenant, l'ordre teutonique continue à exister à Vienne comme un petit ordre religieux avec un grand maître qui a le rang d'un abbé mitré, comme on dit. Et ils ont un très joli siège à Vienne, juste derrière la cathédrale de Saint-Étienne. Et ils ont de très beaux archives et ils publient des livres sur leur histoire.
Avant de terminer cette émission, je voudrais que vous puissiez nous dire quelques mots de votre habilitation à diriger des recherches, Christiane Thomas-Poeg. Votre habilitation se compose notamment d'un rapport de synthèse intitulé « De la Livonie au Royaume de Sicile » et d'un mémoire inédit dont le titre est « Séparer et unir, la frontière entre les États de l'Église et le Royaume de Sicile, 12e-15e siècle ».
Je voudrais juste dire que quand j'étudiais les teutoniques en Sicile, il s'agissait aussi de traverser en quelque manière une frontière. Non, c'était des hommes qui venaient des terres allemandes et s'installaient en Italie du Sud. Dans ce cas-là, dans le cas présent, il s'agit d'une frontière vraie, une frontière étatique, linéaire, marquée sur le terrain, qui séparait les États de l'Église du royaume de Sicile, mais qui était aussi une terre de passage, passage des influences culturelles, passage des ambassades, etc., etc. Et ce qui m'intéressait surtout en écrivant cette thèse, c'était la vie quotidienne des personnes qui habitaient dans cette zone de frontière, les personnes qui devaient subir toute une série de guerres, de difficultés, mais qui, dans le même temps, ont bénéficié de ce fait de vivre sous la frontière dans leur vie économique et culturelle.
Pour finir, je rappelle le titre de votre ouvrage, Christiane Thomas-Poeg, Histoire des chevaliers teutoniques, publié chez Flammarion et disponible en poche. Merci à vous, Philippe Josserand, d'avoir animé l'émission avec moi. Merci, Christiane Thomas-Poeg, pour votre participation. Merci, chères auditrices et auditeurs, de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle émission. Belle fin de journée à tous.
Euradio vous a présenté Les Voix de l'Histoire, une émission animée par Bernard Michon. Les voix de l'histoire à retrouver en podcast sur euradio.fr.